1h19.
Chapitre 76. Le Bélier.
Avant de quitter tout de suite la tête du cachalot, j'aimerais que vous notiez simplement, en physiologiste réfléchi que vous êtes, la densité et la concentration extrême de la partie antérieure, et que vous l'examiniez à présent dans le seul dessein de vous faire une idée raisonnable et éclairée de la puissance qui s'y trouve logée, celle d'un véritable bélier. C'est là un point crucial. Il vous faut régler par vous-même la question de manière satisfaisante, faute de quoi vous resterez à jamais incrédule devant l'une des péripéties les plus effroyables et pourtant véridiques qui se puissent lire dans les annales de l'histoire humaine. Vous observez que dans la position de nage ordinaire du cachalot, le front présente un plan presque entièrement vertical par rapport à l'eau, et que sa partie inférieure s'incline fortement vers l'arrière de manière à fournir un abri à la cavité profonde qui reçoit la mâchoire inférieure en forme de bout dehors. Vous notez que la bouche se trouve complètement sous la tête. C'est un peu comme si vous-même aviez la bouche placée sous le menton. Vous constatez également que la baleine est dépourvue de nez, ce qui en tient lieu, son évent, étant situé sur le sommet de la tête, et que, par ailleurs, les yeux et les oreilles se trouvent sur les côtés, à un tiers environ de la longueur totale, à partir du front. Il vous apparaît donc clairement, à présent, que cette partie antérieure est un mur aveugle, dépourvu du moindre organe et de toute proéminence sensible. Il vous faut maintenant considérer que c'est seulement à l'extrémité de la partie qui s'abaisse loin en arrière, sous la tête, que se voit quelque chose qui pourrait s'apparenter à un vestige d'os, et que le complet développement du crâne ne commence guère qu'à une vingtaine de pieds du front. Cette masse sans os ressemble donc à un énorme bouchon, bien que, comme vous l'apprendrez bientôt, elle contienne entre autres la plus délicate des huiles. Mais pour l'heure, il vous faut connaître la nature de la substance qui fait d'elle, sous des apparences féminines, une forteresse imprenable. Je vous ai précédemment exposé de quelle manière le lard enveloppe le corps de la baleine, comme la peau d'une orange, la pulpe. Il en va de même pour la tête, à la différence que l'enveloppe à cet endroit, pourtant plus mince, offre une élasticité et une résistance dont nul ne saura avoir une idée s'il ne l'a touchée. Le harpon le plus adroitement brandi, la lance la plus acérée manipulée par le bras, le plus vigoureux, rebondissent impuissants à sa surface. On dirait que le front du cachalot est pavé de sabots de cheval. Je ne crois pas qu'il soit le siège d'aucune sensibilité. Songez à autre chose. Lorsque deux gros navires des Indes, bien chargés, menacent de se bousculer et de s'écraser l'un contre l'autre à quai, que font les marins ? Ils ne suspendent pas entre les deux bâtiments, au point où le heurt doit se produire, quelques matières dures telles qu'une pièce de fer ou de bois, mais un gros tampon rond d'étoupe et de liège roulé dans le cuir de bœuf le plus épais et le plus résistant. Ainsi se trouve amorti, hardiment et sans dommage, le choc qui eut autrement brisé tous les aspects de chaîne et autres leviers de fer. On a là une parfaite illustration de ce qui m'apparaît comme une évidence. Mais je dois faire part ici d'une mienne hypothèse. La voici. Si l'on considère que les poissons ordinaires possèdent ce qu'on appelle une vessie natatoire, susceptible de se dilater ou de se contracter à volonté, et que le cachalot, lui, pour autant que je sache, est dépourvu d'un tel sac, si l'on considère en outre la façon, difficilement explicable par d'autres raisonnements, dont il enfonce sa tête sous la surface, puis l'adresse hors de l'eau, bien haut en poursuivant sa nage, mais aussi la parfaite élasticité de son enveloppe et le caractère absolument homogène de sa substance, on peut imaginer que ces mystérieux alvéoles, si semblables à un poumon, ne sont peut-être pas sans avoir quelques relations, une relation à ce jour inconnue et insoupçonnée, avec l'air ambiant, qui les rendrait capables de dilatation ou de contraction selon la pression atmosphérique. S'il en est bien assis, pensez combien sa puissance doit être irrésistible puisque l'élément qui y contribue est le plus impalpable et le plus destructeur de tous. Notez encore ceci, poussant devant lui infailliblement ce mur aveugle, imprenable, inentamable, qui recèle à l'intérieur la matière la plus légère qui soit. Le cachalot entraîne à sa suite une formidable masse animée dont on ne saurait apprécier adéquatement la dimension qu'à la corde, comme on fait avec du bois empilé, et qui obéit tout entière à une seule et unique volonté, à l'instar du plus minuscule des insectes. Aussi, j'espère bien que lorsque viendra pour moi le moment de vous exposer dans le détail toutes les formes particulières d'énergie qui se concentrent dans chaque pouce de ce monde expansif, et de vous montrer quelques-uns des moindres exploits de son cerveau, dont son cerveau est capable. J'escompte que vous aurez alors renoncé au scepticisme des ignorants, et accepterez avec moi en apprenant que le cachalot a creusé un passage dans l'isthme de Darien et mêlé les eaux de l'Atlantique à celles du Pacifique, de ne pas lever le plus petit poil de vos sourcils. Car tant que vous n'aurez pas reconnu le cachalot pour ce qu'il est, vous ne serez, en matière de vérité, qu'un provincial et un sentimental. Mais la claire vérité, seules les salamandres géantes peuvent la rencontrer. Combien minces alors les chances d'un provincial ? Qu'advient-il au fidèle frêle garçon qui souleva le voile de la redoutable déesse de Saïs ?